Vous écoutez toujours Delirium environnemental, deuxième partie, donc toujours en revue de presse, revue de l'actualité. Ici au Québec et ailleurs dans le monde, en fait, de l'autre côté complètement, en Chine également, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, continuent de faire trembler plus d'un, mais semble-t-il qu'ici au Québec, tranquillement, après 10 ans, on commence un peu à prendre position. Nicolas Milo?
Ben, deux petites nouvelles vraiment intéressantes qui viennent de deux unions qui sont relativement différentes dans leur façon de voir l'agriculture au Québec. Je parle de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec, et l'Union paysanne, donc un groupe davantage axé sur, entre autres, l'agriculture biologique et une agriculture plus respectueuse de l'environnement.
Et à dimension humaine.
Eh bien, ces deux groupes ont fait, à chacun à leur façon, une prise de position intéressante face aux fameux OGM, les organismes génétiquement modifiés. Eh bien, l'UPA, qui dans son congrès la semaine dernière... Eh bien, déposer un avis comme quoi on devrait recommander le plus fortement que le Québec devienne un territoire sans OGM, ce qui est très intéressant pour une union qui représente les producteurs, à la fois les petits fermiers, même s'il en reste pratiquement plus au Québec, mais les gros producteurs agricoles. Donc, on s'intéresse à cette question-là de protéger le territoire québécois d'une, dans le fond, d'une épidémie de substances génétiquement modifiées. Donc, une prise de position. Il y a même un comité sur les biotechnologies de l'UPA qui s'intéresse à la question et qui fait en sorte qu'on veut faire avancer dans la prochaine année. Toutes les études concernant est-ce qu'on pourrait bien vivre économiquement, parce qu'il faut se dire aussi que dans la peau d'un agriculteur qui sont déjà, vous savez que les
Pogné
agriculteurs perdent de l'argent à chaque année pour produire leurs denrées, et bien voir est-ce que ce serait le moindrement soutenable financièrement de faire en sorte que le Québec devienne un territoire exempté totalement d'OGM. C'est une fichue belle nouvelle, d'autant plus qu'on sait que le Canada, et bien c'est pas trop dans la mentalité de nos gens de l'ouest du pays de faire ce type de réflexion-là, donc si on peut se différencier du bon côté ici, bien pourquoi pas ne pas le faire.
Mais on se souvient aussi que le PLQ avait pris position peut-être en 3 semaines environ avant ça en disant non, nous au Québec nous allons suivre comme une petite que de veau le Canada.
Oui,
et donc ne rien faire en termes d'étiquetage à tout le moins.
Et ce qui est intéressant, c'est que sur cet étiquetage-là, l'UPA aussi se dans le fond prend position. Et non, on ne doit plus considérer l'étiquetage comme être uniquement volontaire, mais on doit en faire un usage obligatoire partout au Québec.
Ben, bonne nouvelle. Et maintenant, l'UP, l'Union paysanne.
L'Union paysanne, eh bien, elle qui, dans le fond, est un peu plus intéressante, je vous dirais, pour ce qui est de nos fibres d'opposants dans les problématiques environnementale. Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler des faucheurs volontaires, un groupe en France dont fait partie, entre autres, Jean Bové.
José Bové.
Eh bien, un groupe qui, depuis 2 ans, dans le fond, comme moyen de pression, vont faucher à la main des champs génétiquement plantés, si je peux le dire comme ça. Eh bien, l'Union paysanne songe sérieusement à vous faire des petites démonstrations de fauchette à main pour l'été 2005.
En fait, ce qui est arrivé, c'est que les faucheurs, c'est cet été qu'ils ont commencé. C'est ça, en fait, concrètement, dans les champs. Et ça a permis toute une visibilité médiatique,
et voilà,
justement, et d'interpeller donc l'opinion publique autour de ces enjeux-là.
Et voilà. Donc, ce qu'on veut faire ici, mais je trouve que c'est peut-être justement à propos que parallèlement, l'union, je dirais, plus forte en agriculture, l'UPA, qui se penche sur la question et qu'en même temps, son groupe peut être un peu plus...
Tout dépend de notre définition de force.
Et voilà,
là, mais bon.
Bref, qui représente des intérêts sans doute économiques plus importants que l'Union paysanne. Et bien, en parallèle à ça, et bien, également l'Union paysanne, qui représente d'autres types d'intérêts, et bien, s'intéresse aussi à la question et en face, dans le fond, augmente la visibilité de cette question-là.
À tous ceux qui voudraient peut-être découvrir l'Union paysanne, je vous invite à le faire à travers leur site Internet, qui est très bien fourni. Il y a d'ailleurs une foule d'informations, beaucoup de publications, leurs mémoires, les mémoires qu'ils ont remis, entre autres, à la CAPA, la Commission de l'agriculture et des pêcheries qui avait lieu cet été. C'est passionnant, vous allez apprendre une foule de choses donc sur le site de l'Union paysanne, qui est bien sûr sur notre site Internet à nous. Hugo, on termine avec la question transgénique avec la Chine. Pays inquiétant, s'il en est.
Inquiet au sujet des OGM. En fait, la Chine est sur le point, dans le prochain mois, de décider si elle va accepter la culture commerciale du riz. Et si elle le fait, ça serait la première denrée génétiquement modifiée qui serait à la base, carrément à la base de l'alimentation des gens. Là. En anglais, on appelle ça un staple. Donc, les patates, les pâtes, le blé, c'est ce qu'on utilise plus dans les pays...
Et des gens, c'est plus d'un milliard de personnes.
Et là-bas, ça serait, en fait, 1,3 milliard de personnes qui commenceraient du jour au lendemain à manger pas mal plus de riz génétiquement modifié. On s'inquiète d'autant plus parce que les pollens de ces produits génétiquement modifiés-là, de ces plantes-là, on le sait bon, à travers de d'autres exemples, pourraient aller contaminer des variétés conventionnelles de riz. Et là, en Chine, il y en a déjà 60 000 variétés conventionnelles. Il semblerait qu'il n'y en a pas une qui fait l'affaire des gens qui en font pousser, intéressamment.
Non, des compagnies, surtout, qui veulent faire la pièce avec le riz.
C'est d'autant plus inquiétant que le riz, en fait, est une des, grains...
Un des grains,
qui est sujet au moins de transformation, contrairement au blé ou à l'orge ou à la patate. Il y a très, très, très peu de transformation qui est amenée dans le blé et donc ça pourrait être beaucoup plus nuisible pour des enfants et les personnes déjà à risque.
Peut-être se souvenir qu'on n'a fait aucun test d'innocuité en termes de maladie sur les humains.
Oui, non, mais on a fait un test de 3 mois sur des rats.
Ah, bien, c'est vrai qu'eux autres, ils résistent pas.
Un chercheur chinois justifie d'ailleurs l'implantation par ce test-là.
Ça, c'est n'importe quoi. Je me souviens cet été d'avoir lu un article passionnant sur les essais en champ de riz transgénique avec un gène humain.
Ah oui, hein?
Est-ce que vous entendez, là? Transgénique à l'humain. Donc, ça s'en vient. Une décision sera prise au mois de janvier. Et bien sûr, l'équipe de Delirium Environnemental sera là pour vous en parler plus amplement. Écoutez toujours Delirium Environnemental, toujours en revue de presse, revue de l'actualité, cette semaine au Québec, mais aussi ailleurs sur la planète qui encore est belle dans nos yeux, dans notre cœur, mais des fois nous inquiète, bien entendu. On parle d'eau ici au Québec. La semaine passée ou la précédente, Thomas J. Mulcair, notre ministre adoré de l'Environnement, et oui, monsieur est au PLQ qui l'eût cru, donc sortait son merveilleux plan de développement durable, en fait l'avant-projet de loi sur le développement durable. 2 jours plus tard, il nous sort une petite nouvelle comme ça en catimini qui fait même pas la première page d'aucun journaux à ma connaissance. Monsieur veut mettre des redevances sur l'eau à tout le monde, hein, citoyens, citoyennes du Québec, vous allez vous faire charger votre eau.
Et oui, monsieur Mulcair fait autre chose que porter un chandail brun à tout le monde en parle, il était merveilleux. Eh bien, Thomas J. Mulcair qui a déposé justement tout de suite après son plan stratégique de développement durable. Est-ce qu'il y avait quelque chose de stratégique là-dedans? Sûrement. Eh bien, un projet qui vise, dans le fond, à accélérer un petit peu ce qui avait été prévu dans la politique nationale de l'eau. La politique nationale de l'eau, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut faire payer, selon le principe d'utilisateur-payeur, ce que coûte l'eau. Mais bien entendu, on se disait, on va faire payer à ceux qui devraient payer le plus en premier. Et bon, dans une logique chronologique précise, venir petit à petit à cibler ceux qui, dans le fond, devraient peut-être le moins payer. Et ces personnes-là, c'est les citoyens.
Parce qu'on disait qu'on voulait commencer avec les ICI, donc l'industrie commerce.
Et voilà. Et donc, ce que nous dit Thomas Mulcair dans son projet déposé la semaine dernière, et c'est bien simple, c'est que ce sont les municipalités en général qui devront assumer cette gestion de qui paie quoi. D'une certaine façon. Mais dans le fond, ce qu'il dit, si une municipalité veut faire payer par ses grandes entreprises la facture de l'eau, mais elle le fera et ça coûtera moins aux gens. Il dit, de toute façon, pour les personnes avec une consommation par jour de 400 litres d'eau, bien c'est environ 6 $ par année. Donc, M. Mulcair ne se sent pas très, très appelé par cette valeur financière, sauf qu'on commence par un 6 $, et aussi la question fondamentale, est-ce qu'on a le besoin de payer pour un bien vital, alors que pour une compagnie, ce n'est pas un bien vital, mais c'est une ressource de production. Mm-hmm. Donc, on ne fait absolument pas la distinction entre ces deux idées-là. L'eau, pour M. Mulcair, ce n'est qu'une seule et unique chose, c'est une ressource. Alors que plusieurs vous le diront, et je ne suis pas le premier à faire des travaux là-dessus ou quoi que ce soit, mais il y a plusieurs façons de voir de l'eau. Il y a l'eau qu'on boit tous les jours qui nous sert à vivre, et il y a l'eau qui nous sert à faire une pièce. Mais M. Mulcair ne fait absolument pas de différence entre ces deux idées-là. Mm-hmm. Eh bien, attendez-vous à voir plusieurs oppositions se faire. Les villes de Laval et Longueuil n'ont absolument pas voulu se prononcer là-dessus tellement la nouvelle les prenait de court. Le maire de Gatineau est complètement outré, et M. Alain de Souza de Montréal, eh bien, nous dit, dans le fond, c'est une... ce qu'on nous demande à la ville, c'est 7,2 millions de plus par année. Bien, c'est 102,2 millions de plus que le provincial vient piger dans les poches des provinces et sur le dos des citoyens en plus.
Bien, ce sera définitivement un dossier que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt. J'en profite tout de suite peut-être pour vous annoncer que M. Mulcair a accepté notre invitation. Il sera avec nous au mois de février pour répondre à toutes ces questions-là.
C'est là!
Il va falloir qu'on le garde pendant au moins 2 heures parce que moi, j'en ai une liste puis une autre de questions à lui poser. Hugo Lachapelle, un peu plus loin chez nos voisins du Sud, États-Unis, à Washington, il s'abrase.
Il semblerait qu'ils sont pas là pour nous donner des leçons ni pour nous aider à améliorer nos pratiques. Et non, le deuxième mandat de Monsieur Bush est en train... Bon, en fait, il y a des groupes écologistes qui l'ont attaqué directement depuis son élection, là, bien entendu. Mais les déclarations commencent à sortir et le chat sort du sac. Et M. Bush a décidé que les 3 lois les plus importantes en environnement aux États-Unis allaient être modifiées assez drastiquement. On parle d'émasculer le Clean Air Act, la loi sur la qualité de l'air, qui en fait fait référence partout dans le monde en termes de qualité de l'air. Donc la plupart des pays réutilisent ces normes-là qui ont été établies par le EPA, Environmental Protection Agency. On parle aussi d'une nouvelle loi sur l'énergie où on est en collaboration une modification aux lois sur les espèces menacées qui nous permettrait d'ouvrir les grands refuges de l'Alaska à la prospection de pétrole, bien entendu.
Quelle belle idée!
Des refuges de conservation qu'on va ouvrir à la prospection de pétrole. Bon, désolé.
Quelle logique. Vraiment, ces États-Unis, hein, c'est toujours incroyable.
Par contre, on nous dit qu'on va avoir plus de suivi de qualité de l'eau. Bon petit côté. Pourquoi? Bien entendu, à cause des attaques biologiques, terroristes, machin. Inquiétons-nous. Regardons notre eau.
Bon. Décidément, ces États-Unis, ça n'a ni queue ni tête. En tout cas, ils vont nous acheter la nôtre. Mais là, pour l'instant, on leur donne. Hein, fait que ça ne coûtera pas trop cher. Là. Mais bon, j'imagine qu'ils comptent puiser dans nos sources à nous pour s'abreuver en eau. Merci beaucoup. C'est déjà ce qui va compléter la revue de l'actualité. Pas complètement. On se fait le plaisir des en bref, les petites vites cette semaine au retour. Et c'est déjà ce qui complète la revue de l'actualité, revue de presse pour cette semaine. Mais avant de s'en aller, les petites vites en bref cette semaine. Messieurs, lancez-vous.
Eh bien, deux éminents chercheurs qui écrivent, entre autres, dans le International Space Policy, eh bien, suggèrent la chose suivante. Il faut faire des réserves nationales sur Mars parce qu'on va trop rapidement polluer et dégrader cette deuxième planète-là. Donc, c'est les idées qui circulent dans le monde scientifique actuellement.
N'importe quoi! Moi, j'ai été tout à fait estomaqué d'apprendre que les petits sacs de plastique qu'on met dans notre bac de recyclage sont envoyés direct à la poubelle en arrivant au centre de tri là-bas. N'importe quoi! Ils n'ont pas les infrastructures pour les recycler ou je sais pas. Mais c'est la preuve qu'il faut absolument arrêter d'utiliser des sacs de plastique. Achetez-vous un cabas, un petit sac de nylon. Faites quelque chose, mais faites-le vite!
Petit sondage sur les éoliennes en Gaspésie. En fait, il y a des gens qui nous disent, beaucoup de voyageurs au Québec nous disent que les éoliennes améliorent leur expérience de voyage. Il y en a près d'un tiers qui sont en fait curieux d'aller voir, jeter un coup d'œil de plus près à ces grosses machines dont tout le monde parle.
Ah.
Eh bien, on a déjà mentionné ce fait-là, mais c'était officiel la semaine dernière, le dossier noir des communications gouvernementales déposé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Reconnaît entre autres Hydro-Québec et le ministère de l'Environnement comme les plus réticents à fournir l'information, donc qui fait atteinte à la liberté d'accès à l'information.
Incroyable. Il y a un centre sur les changements climatiques qui vient de s'ouvrir cette semaine au Québec. Ça regroupe plusieurs organisations qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, Greenpeace, Équiterre et plein d'autres groupes intéressés par l'environnement vont donc relever le défi d'informer la population au sujet des actions qu'ils peuvent entreprendre pour respecter le défi d'une tonne. Donc, on demande à tous les citoyens et citoyennes canadiennes de diminuer leur consommation d'énergie d'une tonne par année. Incroyable! Ben pas d'énergie, je m'excuse, de gaz à effet de serre. Leur production de gaz à effet de serre diminuée d'une tonne. C'était beaucoup plus clair.
Pour reprendre les termes de notre cher Nicolas Mainville, on a une grosse étude cette semaine. Une grosse étude, en fait, 4,4 millions de visites à l'hôpital ont été enregistrées entre 1993 et 2000 dans 31 hôpitaux de la ville d'Atlanta. Et pour évaluer en fait les effets sur les maladies cardiaques, les effets de la pollution de l'air sur les maladies cardiaques, c'est le Electrical Power Research Institute qui sort avec des données claires sur les sur le fait que les particules fines émises autant par l'industrie que par les véhicules pourraient sont en fait provoquent des hausses de 7% d'admission dans les hôpitaux lors des journées où il y a moins de plus de pollution.
Bien, merci beaucoup de cette triste nouvelle, mais on s'en doutait, nous autres, que c'est pas bon pour la santé, la pollution.
Eh bien non, on ne t'a pas oublié, Sam Ahmad, et oui, je t'en apprenais une petite dernière. Eh bien, après que 72% des électeurs de Beaumont se soient opposés au projet Rabaska, eh bien lui nous dit que c'est un projet qui est stratégique et qui devrait voir le jour, même si c'est à 3 km de là.
Ben oui. Vous êtes de retour à Delirium environnemental. Je vous l'annonçais plus tôt en début d'émission. Deux dossiers de fond cette semaine. L'un des deux, c'est j'ai eu le plaisir plus tôt aujourd'hui de m'entretenir avec Mme Annie Roy, qui est cofondatrice de l'ATSA. L'ATSA, si vous le saviez pas, c'est l'action terroriste socialement acceptable qui mène plusieurs actions pour éveiller les consciences. Entre autres, ils utilisent beaucoup l'art. Leur but, le mandat qu'ils se sont donné, c'est la création, la production et la diffusion d'interventions urbaines qui questionnent, rassemblent et ou mobilisent une communauté en la rendant la principale actrice de l'action. Sous forme d'installations de mise en scène réaliste, leurs événements viennent transformer et questionner le paysage urbain. Ça se tenait d'ailleurs du 1er au 5 décembre sur la place Émilie-Gamelin, et j'ai eu le plaisir donc de discuter plus tôt avec Mme Annie Roy de ce qu'est l'ACTSA et pourquoi.
Mme Roy, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. D'abord, la première, j'aimerais savoir quelle est l'idée qui a impulsé l'ACTSA. Donc, qu'est-ce qui a fait naître cette belle idée?
Bien, en 97, on écoutait les nouvelles, puis il y avait les banques canadiennes qui faisaient des milliards de profits versus la maison du père qui avait besoin de 106 paires de bas par jour. Et c'est en fait l'aberration de ces deux besoins qui a fait naître notre première intervention qui s'appelait la banque à bas. Quand on le dit tout du long, ça fait la banque à bas, la banque à bas, la banque. Et puis, c'était une intervention qu'on avait déposée illégalement devant le Musée d'art contemporain, qui est un guichet automatique de vêtements chauds fait de cuisinières, de poêles de cuisine, là, récupérés et soudés ensemble. Donc, les pots de poêles faisaient office de guichet, là, retrait, dépôt. Et puis, c'était posé là illégalement, d'où un certain terrorisme d'organisation. Et ça a fini par rester là 2 mois.
Quelle est la logique qui porte vos actions?
Ben, c'est une logique, je pense, d'avoir envie que l'art soit aussi un outil d'éducation sociale, de changement, un médium quoi qui vient réveiller les consciences d'une autre façon, et puis aussi une manière de se présenter dans le paysage urbain, le paysage public, reprendre parole, redonner à la place publique un peu sa parole citoyenne et puis se responsabiliser dans nos actions au quotidien.
Dans ce sens-là, vous misez beaucoup sur la force de l'image, puis vous utilisez beaucoup l'art pour passer vos messages. Quel genre de réception vous avez de la part des citoyens?
Ah, une excellente réception. Je pense que les gens adhèrent à ce message-là en général. Maintenant, il faut que non seulement le message passe, mais qu'il fasse changer les habitudes de vie. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui est plus difficile. Les gens souvent sont informés. On est en fait très informés dans les sociétés actuelles, mais on est aussi très désinformés parce qu'il y a toute une publicité, puis je pense une espèce de courant de réussite de vie qui fait qu'en bout de ligne, des fois, les gens ont de la difficulté à changer leurs habitudes. Alors, l'idée, c'est de conscientiser, mais aussi passer à l'action. C'est une espèce de pas à franchir qui est plus difficile, mais je pense que quand les gens voient ce qu'on fait, puis que bon, un organisme, on est un petit organisme là-dessus, tu sais, puis on fait quand même des projets qui sont d'envergure, souvent. On dirait que ça donne un élan. Je pense que notre force, à Pierre et moi, elle est communicatrice, tu sais, notre motivation, notre énergie.
Parce qu'en fait, vous dites à votre force, à vous et Pierre, en fait, c'est que vous êtes deux à avoir parti ce projet.
Oui, on est un couple. L'engagement est à plusieurs niveaux ici. On est un couple dans la vie. On a deux enfants. On a fondé l'ATSA et puis c'est quelque chose qui est très interrelié pour nous, la vie de famille, la création.
Et puis, pouvez-vous nous parler un peu des actions que vous avez posées depuis la mise en place de ce projet?
Ben, en fait, avec bon, la Banque ABA a découlé en 98 un camp de réfugiés urbains qui était l'état d'urgence et qui, à chaque année, se remonte à différents niveaux. Là, ça n'a pas toujours été vraiment facile. En fait, ça ne l'est jamais. Là. C'est un événement qui est extrêmement éprouvant, humainement, financièrement, logistiquement. Mais c'est là qu'on démontre que l'engagement, c'est aussi la persévérance. Tu sais, il faut pas que changer ses habitudes ne soit toujours que des vœux du premier de l'an, tu sais. Mm-hmm. À un moment donné, bon, nous on démontre par cet événement qu'on remonte d'année en année, qu'il y a une persévérance, si vous voulez, au discours. Mais donc, ça s'était monté en 98 comme une espèce d'extrapolation de la Banque ABA parce que c'était le 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et qu'on voulait faire un événement en solidarité à tous les exclus de la société, les sans-terre, les sans-toit, les oubliés, et leur donner une voix. Alors là, on leur donne une voix en leur faisant un événement. Ils ont une tribune et ils ont aussi un lieu de rencontre. C'est sûr que c'est une sorte de vacances à la rue. Ça leur permet de vivre des nouvelles expériences, de voir des nouveaux visages. Les gens sont invités à venir les rencontrer. Et puis ça fait humainement, à notre niveau, dans notre communauté, un événement qui est très riche pour les personnes qui y sont. Mais en même temps, c'est un événement qui, à cause de toute sa symbolique, nous ouvre les yeux sur une situation à un niveau international d'une pauvreté qui ne fait qu'augmenter. Les riches sont protégés dans leur univers et leur richesse fructue, mm-hmm. tandis que la pauvreté, elle, est de plus en plus laissée à elle-même et elle fructue elle aussi.
Mm-hmm. Et puis justement, avec le recours à l'art, la façon dont vous utilisez beaucoup l'art dans vos manifestations civiles, ça permet également une couverture médiatique qui est fort intéressante parce qu'on vous voit de plus en plus et c'est fort heureux. En terminant, vous aviez cette année sur la place Émilie-Gamelin, donc du 1er au 5 décembre, un arbre de Noël de sacs de plastique.
Oui.
Peut-être juste terminer sur cette logique-là. Pourquoi avoir fait un arbre de Noël de sacs de plastique?
Bien, au sein de l'état d'urgence, ATSA fait toujours une œuvre ou deux. Cette année, il y avait d'une part sous surveillance, c'était des caméras de surveillance dans les tentes et qui retransmettaient tout ce qui se passait dans les tentes sur écran géant. Alors, ça avait double fonction pour nous. D'une part, les gens s'y sentaient invités parce qu'ils voyaient ce qui se passait à l'avance et étaient moins gênés de rentrer, mais aussi c'était toute la paranoïa des relations, etc. Il y avait aussi le fait de voir la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sur la même place, qui voulait vraiment signifier une sorte d'unité des peuples et de mettre de côté nos croyances et certaines rigidités d'esprit qui font que finalement on oublie l'essentiel, c'est qu'on est des êtres humains et qu'on devrait s'entraider. Et l'œuvre dont vous parlez, qui s'appelle 18 milliards, qu'on reprendra peut-être parce que c'est très important c'est une œuvre qu'on trouve très importante au niveau de la réflexion sur la surconsommation et la pollution. 18 milliards, c'est des sacs de plastique qui font guise de feuilles dans les arbres en hiver. Alors, ça fait comme que les sacs de plastique sont là au vent. Et on y appose sur les troncs cette pancarte qui dit qu'on utilise 18 milliards de sacs de plastique par année. Un sac de plastique prend une seconde à produire. On le consomme en moyenne pendant 20 minutes et on le jette et ça prend 400 ans à se décomposer. Et cette utilisation de sacs de plastique augmente de 1% sur la planète par année. Alors, on peut imaginer qu'à la vitesse de décomposition que ça a, la vie sur la Terre peut vite être envahie par ces sacs de plastique.
Qui, et pour très longtemps.
Oui, c'est ça. Alors, le fait de les mettre dans les arbres, arbres symbole de vie, c'est un peu une espèce de manière de dire qu'on est en train de vraiment envahir la nature et la vie de nos déchets de consommation. Qu'est-ce qu'on fait avec des sacs de plastique? On ne fait que mettre des choses dedans. Et à côté de ça, ben justement, ATSA a développé une ligne de produits dérivés. Alors, vous pouvez nous commander des sacs de nylon. Ils sont super résistants, puis ils se mettent dans une petite pochette qui rentre dans une sacoche ou dans une sur qui s'accroche à une ganse de pantalon, et on l'a toujours sur soi, parce que le problème avec les sacs qu'on peut réutiliser, c'est que souvent on l'a pas sur soi. Fait que nous, on trouvait ça très intéressant, ce sac-là, parce que moi, je le traîne toujours avec moi, ce qui fait que si puis il contient beaucoup, alors que je m'achète une pinte de lait ou des livres ou tout ça, j'en ai plus de sacs de plastique à la maison. D'ailleurs, ici, on dans la famille, on a comme un seau rigide là en plastique, et on ne met pas de sac de plastique dedans pour nos vidanges. Ça, c'est souvent les gens prennent un sac de plastique puis ils disent c'est pas grave, je l'utilise pour mes vidanges, mais il y a moyen de se passer de sac de plastique, d'avoir juste le gros sac vert qui va au chemin. On composte, on recycle, puis ce qui peut pas aller ni dans l'un ni dans l'autre va dans ce seau. Et puis quand ce seau est plein, on le met dans la grosse poubelle, si vous voulez, puis on le rince un peu et c'est fini. Alors nous, on a développé une manière d'utiliser vraiment le strict minimum de sacs de plastique, et c'est faisable.
Donc c'est vraiment d'y réfléchir pour être en mesure de se donner les moyens d'agir conséquemment.
C'est ça. On fait une œuvre, mais pour nous, elle fait des petits dans notre vie au quotidien. Ce qui nous intéresse, c'est l'action. C'est pas pour rien qu'on s'appelle action. C'est qu'il y a comme une manière de... Tu sais, terroriste, dans le fond, si on enlève la terreur, là, parce que nous, on a le socialement acceptable là qui vient compenser ça. Mais en gros, un acte terroriste est là pour qu'on mette en lumière quelque chose de terrible qui se passe, et qu'on veut, on a les moyens du bord pour venir, éclater au grand jour quelque chose de grave qui se passe et qu'on veut que ça change. Alors c'est plus dans ces termes-là que notre terrorisme artistique vient s'étaler. Évidemment, on est un organisme pacifique, et jamais on ne fera d'action ou on appuiera d'action qui viennent à l'encontre des droits fondamentaux de la nature ou des êtres humains.
Et donc, pour tous ceux qui voudraient s'informer, pourront le faire à partir de votre site Internet. Je redis tout de suite l'adresse, donc le www.atsa.qc.ca. Ils pourront entre autres se procurer le sac de nylon duquel vous parliez tout à l'heure.
Oui, puis bon, par rapport à l'événement qu'on vient de vivre, les dons sont encore acceptés. Puis vous pouvez aussi devenir membre de l'ATSA. On discute beaucoup avec nos membres. Ils sont tenus de manière privilégiée au courant de nos événements. Puis quand on a une réflexion par rapport à un sujet, ben on leur demande leur opinion. Ça nous fait comme un petit sondage, si vous voulez, en même temps. Ça nous ouvre vers d'autres connaissances, parce qu'il y a des gens dans notre membership qui sont érudits en leur domaine, et c'est toujours le fun de les consulter.
Donc, on invitera à l'occasion les gens à devenir membres sur votre site Internet, duquel on remettra l'adresse sur notre site à nous de Délirium Environnemental. Madame Anne-Niroy, je vous remercie beaucoup, puis je souhaite une très longue vie à l'ATSA.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Merci. Au revoir.